Les États-Unis n'ont pas de place dans le golfe Persique. Les pays de la région sont capables d'assurer eux-mêmes leur propre sécurité, a ponctué le général Tang Siri, commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique. Six roquettes sont tombées dimanche 1er mai sans faire de victimes dans une zone de la province d'Erbil, dans la région du Kurdistan, dans le nord de l'Irak, et au moins 20 de terroristes Boko Haram ont été abattus par la force multinationale mixte dans la région du lac Tchad. C'était les principaux titres. En voici le journal. Un commandant iranien a déclaré dimanche 1er mai que les États-Unis n'avaient pas de place dans le golfe Persique, car les pays de la région étaient capables d'assurer leur propre sécurité. Ces remarques ont été faites par Alireza Taksiri, le commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, qui a également averti que tout pays cherchant à compromettre les intérêts de l'Iran dans le golfe Persique ferait face à des réponses écrasantes et douloureuses de la part de l'Iran. L'Iran a transmis à plusieurs reprises des messages de paix et d'amitié à ses voisins du Sud, soulignant que la région était capable de garantir sa sécurité, a indiqué le commandant Alireza Taksiri. La marine du CGRI est constamment, activement et efficacement présente dans tout le détroit d'Hormuz et dans la partie nord du golfe Persique. Compte tenu de sa totale domination en matière de renseignement, elle surveille en outre tous les mouvements dans la région, a noté le commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique. Le président iranien Ebrahim Raisi a invité son homologue tadjik, Emomali Rahmon, à se rendre en Iran. Au cours d'une conversation téléphonique, M. Raisi a félicité M. Rahmon pour la prochaine Eid al-Fitr et a déclaré que la République islamique d'Iran estime que la sécurité et la prospérité du peuple tadjik sont la sécurité et la prospérité du peuple iranien. L'Iran est préoccupé par la situation sécuritaire dans la région, en particulier en Afghanistan, a déclaré M. Raisi, soulignant la nécessité de développer la coordination sécuritaire entre les deux pays. M. Raisi a également exprimé sa satisfaction quant au développement des relations commerciales et économiques entre les deux pays, affirmant que la visite du président du Tadjikistan à Téhéran conduira à un développement ultérieur des interactions bilatérales et interrégionales entre Téhéran et Douchanbé. Les ministres iraniens et syriens des Affaires étrangères se sont entretenus lors d'une conversation téléphonique des questions d'intérêt commun. Le ministre iranien Hossein Amir Abdollahian et syrien Faisal Mirdad ont discuté de la commémoration de la journée mondiale d'Al-Quds en Syrie, en Iran et dans les différents pays du monde et du plan soutien de leur pays à la résistance du peuple palestinien face aux agressions criminelles israéliennes contre l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa, soulignant les positions fermes des deux pays envers le peuple palestinien. M. Mirdad a affirmé que les relations stratégiques entre la Syrie et l'Iran vont toujours vers plus de développement, soulignant la nécessité d'activer la coopération économique entre les deux pays pour faire face aux répercussions des mesures économiques coercitives occidentales illégales et inhumaines imposées au peuple des deux pays. De son côté, M. Amir Abdollahian a évoqué la profondeur des relations entre la Syrie et l'Iran et les efforts continus pour renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines, réitérant le soutien de son pays à la Syrie et à son peuple. Il a exprimé la disposition de l'Iran à fournir tout ce qui est possible pour surmonter les impacts négatifs des mesures coercitives unilatérales. Une bourse anti-sanctions irano-syrienne voit le jour. En automne, le directeur de la bourse a fait part du lancement d'une plateforme d'échange conjointe Iran-Syrie. Le conseiller du directeur de l'Organisation iranienne de bourse pour les affaires internationales, Bahadur Bijani, a déclaré qu'un bureau de coordination des activités au marché des capitaux de l'Iran avait été inauguré en Syrie. Les activités liées à la bourse de commerce au niveau international sont coordonnées dans ce bureau qui fournit également des services nécessaires à tous les organes du marché des capitaux et de l'organisation de bourse en Syrie, a dit M. Bahadur Bijani, ajoutant que des propositions relatives à la bourse de marchandises avaient déjà été remises aux responsables syriens concernés. Nous nous attendons à ce que la partie syrienne annonce son avis final à ce propos pour que nous puissions passer à une nouvelle étape de coopération. M. Bijani a souligné que la bourse de commerce de l'Iran était totalement prête à fonder une bourse de marchandises en Syrie et à former une plateforme conjointe avec la Syrie dans le domaine de cette bourse. Une coopération entre les bourses de marchandises de l'Iran et de la Syrie contribue à faciliter les échanges de marchandises d'une manière systématique, a-t-il dit. évoquant les problèmes liés au transfert de devises sur la plateforme en raison des sanctions, M. Bijani a déclaré. Dans cette plateforme de commerce conjointe, les échanges de biens entre les parties se dérouleront par les contrats de troc. Six roquettes sont tombées dimanche 1er mai sans faire de victimes dans une zone de la province d'Erbil, dans la région du Kurdistan irakien, a déclaré le service de lutte contre le terrorisme de la région dans un communiqué. Les roquettes ont été tirées depuis Al-Hamdaniya, une ville située à 60 km à l'ouest de la ville d'Erbil et ont atterri près de la rivière Al-Zab, à la périphérie de la ville kurde de Rabat, indique le communiqué de ce service. Aucun groupe ou individu n'a encore revendiqué l'attaque. Le 6 avril, trois roquettes avaient été déjà tirées depuis la région d'Al-Hamdaniya et avaient touché une zone habitée proche d'une installation pétrolière dans la zone de Rabat. Elle n'avait pas non plus fait de victimes. Les FTS ont kidnappé un certain nombre de civils de la ville de Raqqa pour les forcer à combattre dans leur rang. Des sources locales ont révélé à Sana, l'agence de presse officielle syrienne, que les FTS avaient pris d'assaut un certain nombre de maisons dans le quartier d'Al-Mujama, dans la ville de Raqqa, et dans la ferme de Huzaïma, au nord, et kidnappé 6 civils, dont 4 jeunes, et les ont emmenés vers l'un de ces camps d'entraînement pour les forcer à combattre dans leur rang. Au moins 22 terroristes du groupe extrémiste Boko Haram ont été tués lors d'une récente opération lancée en bordure du lac Tchad par des troupes de la force multinationale mixte FMM, a déclaré un porte-parole de cette force dans une déclaration. Les troupes de cette force conjointe régionale avaient attaqué plusieurs bastions de Boko Haram au cours d'une opération de nettoyage près de Tumbun Rago, une ville au bord du lac Tchad, dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria, indique le porte-parole de la force multinationale mixte. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fait part dimanche soir à Dakar de son souhait de voir s'instaurer dans les délais les plus brefs l'ordre constitutionnel au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Pour ce faire, il est important de poursuivre le dialogue avec les autorités de facto des trois pays, a ajouté M. Guterres, qui s'exprimait lors d'un point de presse avec le président sénégalais Macky Sall. Au sujet de la situation sécuritaire au Sahel, qu'il a jugée préoccupante, il s'est engagé à continuer de plaider pour des opérations africaines de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme robustes mises en œuvre par l'Union africaine et appuyées par l'ONU. Il a en outre demandé à l'ensemble de la communauté internationale d'apporter son soutien aux pays ouest africains afin qu'ils soient à la hauteur des enjeux sécuritaires en s'attaquant à leurs causes profondes sans oublier de s'atteler aux nouvelles occasions de développement. M. Guterres séjourne depuis samedi soir à Dakar. Première étape de sa tournée dans le cadre d'une visite de solidarité pour le Ramadan qui le conduira ensuite au Niger et au Nigeria. Voilà, si s'achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. Quelle est la vraie raison de la visite du ministre chinois de la Défense à Téhéran? Que faut-il comprendre à ce récent discours de l'agent israélien Zelensky? Quand interrogé sur l'avenir de l'Ukraine, il a répondu à la presse « L'Ukraine de l'après-guerre ressemblera à Israël. Il y aura des soldats armés dans les ciné, dans les centres de shopping, dans des jardins publics. Tout le monde sera armé, femmes, hommes, et tout le monde prêt tout le temps à défendre la patrie. L'Ukraine ne pourra jamais faire un retour en arrière et se reconstituer comme un pays européen dirigé par les libéraux. Notre modèle à nous sera Israël. » Placé du côté ukrainien, Cette assertion choquante signifie ni plus ni moins la fin de l'État-nation orthodoxe et slave ukrainien, la fin du respect du droit international, la milicisation puis la mercenarisation de la population, de façon à ce qu'il y ait une dynamique guerrière permanente aux portes de la Russie, extensible à tout son environnement. Un projet de sionisation que les États-Unis auraient décidé depuis que l'axe de la résistance a enterré le mythe d'invincibilité de l'entité, un certain mai 2021, et au bout seulement de 11 jours de bataille balistique qui est toujours en cours. La guerre Ukraine-Russie est donc avant tout une opposition frontale de Poutine à ce qui est une œuvre de déstabilisation et partant de désintégration de la Russie à long terme. Cette sionisation, les Yankees l'ont tentée aussi au Maghreb, aux portes de l'Algérie, avec un rabat qui s'est entièrement adonné aux sionistes, quitte à se faire littéralement coloniser. Mais en mer de Chine, projette-t-il aussi d'israéliser Taïwan? Depuis février 2022, des rapports identiques à celui-ci sont légion dans la presse occidentale. À Taïwan, la guerre en Ukraine a attisé les craintes d'une invasion par la Chine qui revendique cet archipel démocratique de 24 millions d'habitants. Depuis le début de l'invasion russe, le gouvernement a publié un manuel de survie en temps de guerre et cherche à allonger la durée du service militaire. Mais la population aussi se mobilise et multiplie les formations de premier secours et de défense civile. Pour assurer sa défense, Taïwan compte pourtant sur une armée de 200 000 soldats professionnels. Mais la formation des citoyens reste tabou, selon des sources d'information. Avec ou sans le soutien du gouvernement, ces formations civiles ne devraient pas désemplir. Selon de récents sondages, 70% des Taïwanais se disent prêts à se défendre en cas d'invasion chinoise. À lire entre les lignes, c'est le même modèle de milicisation de la population et de la guerre permanente qui saute aux yeux. La question qui se pose alors est la suivante. Que compte faire la Chine pour y faire face? Va-t-elle s'engager militairement dans la bataille ou fera-t-elle appel à une troisième alternative? Au 66e jour de l'intervention russe en Ukraine, il est clair que les Yankees cherchent à pousser les Russes à faire un périlleux choix entre une guerre conventionnelle à n'en finir et un recours à l'arsenal non conventionnel, une perspective que Poutine n'écarte plus. C'est pour éviter un tel dilemme que la Chine semble se retourner vers l'Iran et la résistance qu'elle sait être la seule au monde à avoir vaincu le sionisme et à avoir fait comprendre concrètement aux Yankees les limites de leur projet fou. Mais de nombreux analystes continuent encore à s'interroger sur l'arrière-fond de ce déplacement précipité qui cache visiblement d'autres terrains de coopération que les parties ne souhaitent pas médiatiser. Au fait, la Chine est inquiète d'une israélisation de Taïwan et, en dépit de ses investissements, Haïfa ne veut guère voir une entité sioniste émerger à ses portes, d'autant plus que Taïwan, elle la considère comme son propre territoire. Cette tendance s'est fait montrer juste une semaine après le début de l'intervention russe en Ukraine, quand le ministre chinois des Affaires étrangères s'est fait inviter au Pakistan par l'ex-premier ministre pakistanais Imran Khan et y a dénoncé la politique israélienne et a défendu le droit de la Palestine à l'indépendance. Cette sortie a coûté à Imran Khan sa place, entre autres choses, et prouvé que la Chine est déterminée à aller jusqu'au bout. C'est en Iran, soit au cœur de l'axe de la résistance, seule partie au monde à s'être érigée contre l'international sioniste et lui faire l'échec que Pékin cherche désormais à saper le projet d'une île séparatiste érigée comme un autre Israël en Extrême-Orient face à la Chine continentale. Surtout que les Yankees y déploieront tous leurs moyens matériels et financiers, ainsi que toutes leurs armes, comme ils le font en Israël ou en Ukraine, en créditant Taipei d'une hypothétique indépendance politique et d'une invincibilité factice et fabriquée par un système d'information coordonnée visant à faire admettre la donne géopolitique comme une vérité irréfragable et éternelle. La Chine, c'est que la Russie subira tôt ou tard des attaques de grande ampleur visant son territoire sans qu'il soit possible à Moscou d'utiliser les moyens de la dissuasion nucléaire. Jusqu'ici, l'ultime rempart contre ce scénario. C'est pour prévoir une telle perspective que le ministre chinois de la Défense est venu frapper à la porte de la résistance, toujours ouverte à tous les antisionistes du monde.